Merci d'écouter Inter, il est 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Samedi dernier, les pouvoirs publics organisaient dans la capitale une vaste opération de communication. Le président de la République, la maire de Paris, une flopée de sportifs étaient sur le pont pour la démonstration de force. Le discours est rodé. Avec les Jeux, la France rayonnerait. Elle jouirait de conséquentes retombées économiques. Elle pourrait lancer d'importants chantiers d'infrastructures. Le discours est rodé et il est dominant, il est très difficile d'entendre des opposants à ces jeux, difficile de débattre de l'opportunité de les organiser ou pas. Intervenez donc sur France Inter ce soir jusqu'à 20h pour nous dire si vous y êtes favorable ou non. Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000, le numéro du standard. Sylvain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Je voulais simplement dire que j'étais pas vraiment favorable aux Jeux Olympiques à Paris. Je trouve que les instances des Jeux Olympiques et puis les Jeux Olympiques en général, il y a un gros manque d'éthique. On a été capable d'attribuer les Jeux Olympiques à des pays comme la Russie, à la Chine. Là, on va créer, bon, c'est pas les Jeux Olympiques, mais la Coupe du Monde au Qatar, enfin, bon, des choses comme ça, avec tous les, on sait tous les problèmes que ça a pu engendrer. Et pour moi, je mets ça dans la catégorie des grands projets inutiles. Je pense qu'on a mieux à faire de l'argent public en France. Voilà, il manque de beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas une priorité. Et puis, je voudrais aussi ajouter le manque d'éthique aussi des sportifs qui pour la compétition, au nom de la compétition et du sacrifice je veux dire les entraînements qu'ils subissent à longueur d'année, c'est vrai qu'ils s'investissent beaucoup, mais après, je veux dire, quand il s'agit d'aller gagner une médaille dans des pays comme la Russie ou la Chine ou aller jouer en compétition au Qatar, voilà, je trouve qu'il y a un gros manque d'éthique dans tout ça.
Merci Sylvain pour cette première intervention. Il y en a un certain nombre, hein, comme ça, ce soir au standard de France Inter. On va écouter et vous donner la parole, amis auditeurs. Michael Aloisio, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général adjoint du comité Paris 2024. Danielle Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche, opposante à la candidature de Paris en 2024. Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au service des sports de France Inter. Manque d'éthique, manque de transparence, jeux organisés dans des pays qui ne sont pas nécessairement démocratiques et loin de là pour un certain nombre. Quelle est votre réponse pour commencer à ces observations de notre auditeur Michael Aloisio? Vous avez dû les entendre déjà. Que répondez-vous à cette analyse qui est légitime?
Alors, jusqu'à présent, les craintes que les gens ont, elles sont plus sur les questions de budget que sur ce sujet-là. Mais justement, j'ai envie de dire que si on considère que les jeux ou les grands événements ne vont pas toujours dans les bons pays, c'est une raison de plus pour porter nous une candidature et porter nous un modèle qu'on pense être un modèle responsable et exemplaire. Donc je trouve que ça donne encore plus de sens à une candidature de la France. Lorsqu'on croit au sport, lorsqu'on croit que le sport peut apporter quelque chose, on a envie d'être candidat et de proposer un modèle différent de ce qui a pu être fait jusqu'à présent.
Danielle Simonet.
Bah écoutez, on a quand même le sentiment que c'est déjà dealé, de toute façon, entre Paris et Los Angeles, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre qui va remporter ces Jeux, et l'autre ville remportera la session d'après. Évidemment que ce doute est totalement légitime. Le problème, c'est la forme même de l'organisation de ces Jeux Olympiques, qui pour moi sont vraiment problématiques, parce qu'on est on est très loin de l'esprit initial, en fait, des Jeux Olympiques et de la fraternité entre les peuples au travers de la pratique sportive et du dépassement de soi. On est quand même sur une grosse fête des multinationales qui vont s'en mettre plein les poches, et le contribuable qui va être appelé finalement à payer la facture à l'arrivée. Tout ça pour des infrastructures qui vont être mises en place, qui sont de l'ordre du gigantisme et qui ne correspondent pas aux besoins des Parisiennes et des Parisiens, des Franciliens et des Franciliennes. Et voilà, il y a plein d'autres arguments, on aura le temps d'y revenir, mais franchement, je conçois tout à fait l'argument argument qui rajoute à cela, absence totale d'éthique au niveau du comité olympique, ça a déjà été, au niveau du CIO, ça a été déjà à maintes reprises dénoncé. Donc même s'il y a eu des engagements à dépasser toutes les magouilles qu'il y a pu y avoir auparavant, la vérité c'est que c'est les multinationales qui décide de tout là-dedans.
Fabrice Rigobert.
Après, ça peut être la bonne occasion pour essayer de faire les choses différemment. On parle beaucoup d'éthique, effectivement, mais ce qu'il faut constater, c'est que le CIO, ces dernières années, sans doute pas assez rapidement, mais tente de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, plus éthiques, plus honnêtes.
Non, alors, il tente de communiquer là-dessus.
Daniel Simonet, chacun son tour.
Que ça ne va jamais assez vite, mais on constate qu'il y a quand même un effort de fait. Et si les Jeux viennent à Paris, ce sera peut-être mieux, effectivement, que si cela va dans certains pays où il y a des problèmes qui sont effectivement beaucoup plus gros.
Monsieur le directeur général adjoint du comité Paris 2024.
Oui, je voulais juste revenir sur un point, parce qu'on pointe du doigt les investissements pharaoniques.
On a énormément de questions là-dessus.
On pointe du doigt les investissements qui ne correspondent pas aux besoins de la population. Je pense que tous ces sujets-là, on les a traités. Depuis qu'on travaille sur le projet, on a justement fait des choix très forts de se dire on va construire un projet qui s'appuie sur 95% de sites temporaires ou existants. Donc aujourd'hui, le seul équipement qu'on construit et qui est spécifiquement lié au jeu, c'est une piscine olympique. Et pourquoi on construit cette piscine ? Pas parce qu'on en a besoin pendant les Jeux. On aurait pu faire un équipement éphémère, on sait faire. On construit cette piscine parce que les élus nous disent qu'en Seine-Saint-Denis, il y a un enfant sur deux qui ne sait pas nager et que cette piscine répond à un besoin. Et ce n'est pas la piscine de 17 000 places qu'on a pendant les Jeux, elle sera adaptée pendant les Jeux et c'est le comité d'organisation qui paye. Et juste une question pour revenir sur les budgets, le coût du comité d'organisation des Jeux est financé par des fonds privés. Le CIO injecte plus d'un milliard dans notre économie pour financer les Jeux. Le reste du budget, c'est la billetterie, le programme marketing. L'argent public, il n'y en a pas sur les Jeux, il y en a sur des investissements qu'on utilise à l'occasion des Jeux, mais qui ne sont pas créés pour les Jeux. Lorsqu'on enfouit des lignes à haute tension à côté du village, lorsqu'on construit une passerelle pour désenclaver un territoire, ou une piscine parce qu'on considère qu'il y a un besoin. Donc je pense que c'est important d'expliquer que les Jeux financent les Jeux à travers leurs ressources et que certains équipements sont financés par l'argent public parce qu'ils répondent aux besoins de la population.
On va venir à la question du modèle économique avec les auditeurs de France Inter. Permettez-moi juste de vous lire un courrier électronique de Jean-Charles qui nous dit qu'il est difficile pour lui de se prononcer pour ou contre les Jeux Olympiques à Paris sans avoir plus d'informations. Il indique la chose suivante. Anne Hidalgo nous assure que 90% des installations existent déjà. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Cela veut-il dire que ces JO ne nous coûteront presque rien, que les installations ne seront pas abandonnées comme dans bien d'autres pays après l'événement? En fonction des réponses à ces questions, je pourrais me positionner. Bravo à France Inter pour la qualité de ces émissions. Je lis le mail en entier. Il n'y a pas de raison. Je cite mes sources précisément. Alors, sur ce point, Daniel Simonet.
Moi, je la trouve très intéressante, cette intervention, parce qu'elle révèle en tous les cas que c'est inacceptable ce déni démocratique. Un débat aurait dû être organisé. On remercie France Inter, mais je veux dire, un débat aurait dû être organisé par Madame Hidalgo, par Monsieur François Hollande. Je rappelle que Madame Hidalgo, au départ, était opposée à ces Jeux Olympiques.
Alors pourquoi ce revirement? Comment l'expliquez-vous?
Pourquoi est-ce qu'elle a retourné sa veste après la pression de François Hollande? Mais c'est à elle d'y répondre. Elle a finalement modifié totalement son argumentation en disant l'inverse de ce qu'elle disait la veille. Bon, il n'y a eu aucun débat démocratique alors que ce sont des engagements qui vont être de fait assumés par les contribuables. Parce que vous avez d'abord, tous les jeux ont été sous-évalués, tous les uns après les autres. Fort heureusement, j'espère qu'un certain nombre de leçons des Jeux Olympiques d'hier et d'avant-hier ont été tirées et qu'on va être un peu moins dans l'immense gabegie. Mais je veux dire, quand par exemple dans le 93, on se retrouve à devoir investir 69 millions d'euros alors qu'on a une grave crise budgétaire au niveau de la collectivité du 93, comme de plein d'autres collectivités, mais plus encore dans le 93, et qu'on a une baisse des dotations de l'État année par année qui asphyxie les collectivités, qu'on a un manque d'équipements sportifs dans ce département et notamment de piscines de proximité pour l'ensemble des établissements scolaires, c'est pas une piscine olympique qui va y répondre. Moi, je vous conseille de regarder, désolé si je fais une publicité pour un autre média c'est une chaîne télévision,
oui,
donc
c'est bon.
Voilà. Eh bien, France, c'est Arte qui a fait un excellent
documentaire.
Sur les Jeux Olympiques. Je crois qu'il s'intitulait L'éléphant blanc. L'éléphant blanc, vous savez, c'est une fable qui disait que voilà, pour mieux entre guillemets gagner la guerre contre un royaume voisin, eh bien, on lui offrait un éléphant blanc qui coûtait les yeux de la tête à nourrir, et du coup, le peuple concurrent finalement était affamé. Et finalement, à travers ce documentaire, Arte nous fait réfléchir sur le coût des JO et notamment aussi sur le coût de certaines installations comme le Stade de France qui est devenu un éléphant blanc. Ce que sera aussi la piscine olympique qui est par ailleurs financée en partenariat public-privé. Donc on fait croire aux contribuables que c'est les investissements privés qui vont le financer, mais en fait la collectivité va en payer une fois, deux fois, trois fois le prix.
On va donner la parole à Mathieu dans la Manche avant de la faire circuler ici à nouveau dans le studio. Bonsoir Mathieu, bienvenue.
Bonsoir Monsieur Demorand, bonsoir messieurs dames. Merci d'avoir pris ma question et je voudrais aussi vous féliciter pour la qualité de vos émissions.
Merci Mathieu.
Je me pose la question du retour sur investissement, dans le sens où on sait qu'au-delà du rayonnement des Jeux Olympiques sur le pays qui est la France et la ville de Paris, vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a quand même un coût d'équipement qui est important. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à la dernière Coupe de l'Euro pendant laquelle les entreprises qui étaient organisatrices et certaines qui ont travaillé sur le sol français étaient exemptées d'impôts.
Exactement.
C'est
Daniel Simonet qui vient à votre secours, Mathieu, même si vous n'en avez pas besoin.
Et qui vous dit bravo pour cette remarque, parce que c'est la même chose pour les JO.
Laissez parler Mathieu, s'il vous plaît.
Bah oui, non, mais pas de problème. Mais c'est une vraie question, parce que le retour sur investissement à long terme, on a quand même du mal à en mesurer l'impact. Alors, est-ce qu'il y a des études qui ont été effectuées en termes de faisabilité et en termes de retour sur investissement? Est-ce qu'il y a vraiment une légitimité à ce que nous, contribuables français et contribuables parisiens, je suis pas parisien, investissent eux aussi de leur poche sans savoir si vraiment il y aura des retombées à long terme au niveau économique. Après, au niveau de la structure, c'est encore autre chose. Mais
bien reçu, Mathieu. Bien reçu. Merci pour cette question donc sur les retombées économiques et le retour sur investissement public. Michael Aloisio vous répond.
Merci. Alors, je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps sur les questions de budget pour bien expliquer aux gens. Si le 13 septembre, le CIO nous accorde les Jeux Olympiques, on va créer un comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce comité d'organisation aura un budget de 3,5 milliards. Ce budget est complètement financé par des fonds privés. Donc tous les coûts directement liés aux Jeux proviennent soit du chèque que nous fait le CIO, je vous le disais tout à l'heure, plus d'un milliard, soit de la billetterie, soit du marketing. Et là encore, on a une approche très prudente parce qu'on a prévu deux fois moins que ce qu'est en train de faire le Japon en programme marketing sur Tokyo 2020. On a prévu une billetterie à 85% taux de remplissage des salles, là où on sait très bien qu'on fait plus de 95% sur tous nos événements. Donc une approche très prudente. Et ensuite, le CIO nous demande de préciser dans le dossier des investissements qui sont réalisés pour des équipements qu'on utilise à l'occasion des Jeux, mais qui ne sont pas construits spécifiquement pour les Jeux. Et c'est là où il y a de l'investissement public. Pas parce que c'est un besoin des Jeux, mais parce que les acteurs publics ont considéré qu'il y avait un besoin des gens. Et je vais vous donner deux exemples. Le village olympique, il y a un besoin de logement en Seine-Saint-Denis. Et donc, il y aura de l'argent public pour aménager du logement là-bas. Et ce sont les collectivités et l'État qui ont décidé d'investir. Ce n'est pas le coût des Jeux, nous, on va le louer pendant les Jeux. Le comité d'organisation des Jeux va louer le village olympique pendant les Jeux. Et la piscine olympique, ce sont les acteurs publics qui décident de financer parce qu'ils considèrent qu'il y a un besoin d'équipement sur la piscine. Effectivement, la Seine-Saint-Denis, 103e département sur les 105 départements et territoires en taux d'équipement sportif. Donc, c'est très important de rappeler que le coût des Jeux, il se finance par les ressources que les Jeux génèrent. Et ensuite, on a en marge de ce projet-là les acteurs publics qui décident d'investissement, pas parce qu'on en a besoin pendant les Jeux, mais parce qu'on considère qu'ils sont utiles. La piscine, on aurait très bien pu choisir de faire une piscine éphémère au pied de la Tour Eiffel ou ailleurs. Ça aurait été le comité d'organisation des Jeux qui l'aurait financé. Si on n'a pas fait ce choix-là, c'est qu'on considère qu'ils ont besoin de lignes d'eau pour les scolaires.
On voit bien l'esprit de votre réponse. La question de Mathieu est assez précise. Est-ce qu'il y a des études quant à la rentabilité des Jeux Olympiques? Ce qu'il faut sortir comme argent par rapport à ce que ça rapporte. Est-ce que vous pouvez faire, c'était le sens de la question de Mathieu aussi, une comparaison avec l'euro qui a eu lieu en France? Est-ce que des événements sportifs de cette ampleur s'équilibrent, permettent de gagner de l'argent ou en coûte?
Alors, ces événements sur le comité d'organisation des Jeux, on fera des bénéfices. Et à la différence d'autres organisations sportives internationales, Madame Simonet, le CIO laisse les bénéfices dans le pays hôte à 80%. Donc aujourd'hui, les bénéfices, et c'est contractuel, c'est comme ça pour les Jeux Olympiques, c'est déjà écrit dans les contrats, 80% sont consacrés au pays hôte pour développer le sport dans le pays. Donc les bénéfices ne repartiront pas à l'extérieur, ils resteront dans le pays. Des études, on en a fait une et on a essayé d'associer des gens qui sont géosceptiques. Donc des économistes, on a fait un comité scientifique qui a piloté cette étude avec des économistes, un économiste français, un économiste allemand, un économiste américain qui sont plutôt géosceptiques, qui nous ont aidés à être le plus crédible possible. Et leurs évaluations, c'est de dire que les Jeux rapporteraient en gros 10 milliards, sachant que on a sur la partie investissement, qui n'est pas le coût des Jeux, 1,5 milliard. Mais ce 1,5 milliard d'argent public, il sert à construire du logement et une piscine. Donc c'est important de le dire, on parle de 10 milliards de retombées. On parle d'un chèque du CIO de plus d'un milliard. Je pense que dans la période actuelle, on en a besoin. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que on ne retienne pas cet événement que sous l'angle du rapport économique.
On
je pense qu'il y a tout un programme autour du développement du sport qui a un intérêt majeur.
Alors, Daniel Simonet puis Fabrice Rigobert.
Non, mais écoutez, soyons sérieux. Il n'y a jamais eu une seule étude qui ait prouvé l'impact économique à moyen terme et à long terme de l'organisation des JO dans un pays. Pour la simple et bonne raison qu'un public en chasse un autre. Vous avez un grand événement sportif dans un pays aussi touristique, au niveau de son attractivité touristique que la France et Paris. Eh bien,
désolé,
vous avez
vous coupez, Mme
un
Simonet,
public...
On a tenu compte des effets de substitution.
Eh bien, vous ne nous couperez pas la parole.
Ça a été
et
pris en compte dans l'étude économique que, complètement.
On sait pertinemment que pendant la période de l'organisation des Jeux Olympiques, le entre guillemets public touristique qui souhaite venir visiter Paris, eh bien, retarde, décale son voyage et donc un public en chasse un autre. Je veux dire, les Jeux Olympiques de Londres, à moyen et long terme, n'ont pas eu un impact économique.
Les Jeux Olympiques de Londres ont fait plus 9%.
Eh bien, non, justement, il y a des études contradictoires là-dessus. Parce que justement, les études ne sont pas indépendantes, ne sont pas autonomes et qu'on choisit sur le. On choisit de trier, justement, les économistes pour faire ce genre d'études. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous et je conteste. Je vais vous dire une chose. Il y a dans l'évaluation des coûts quelque chose qui est toujours complètement sous-évalué et on n'a aucune évaluation, mais vous allez peut-être y répondre aujourd'hui, ce sera le scoop de cette émission. Combien vont coûter les Jeux Olympiques en matière de sécurité? Parce qu'on nous impose la prolongation de l'état d'urgence. Moi, je suis à la France Insoumise et nous sommes opposés à la prolongation de l'état d'urgence et plus encore à son inscription dans le droit commun. Bon. Et en même temps, on organise des Jeux Olympiques dont on sait pertinemment que ça va avoir un coût exorbitant en termes de sécurité. Et encore une fois, quand on va parler des équipements, j'aimerais aussi qu'on aborde la question des transports en commun, parce que vous allez avoir des moyens colossaux qui vont être mis en place pour mettre en liaison l'aéroport Charles de Gaulle, le village olympique, les grands équipements sportifs.
Mais c'est pas là, un outil d'urbanisme, de pilotage, Daniel Simonet.
Ça va être une
question ouverte.
Ça va être une ligne
pour
les riches qui va avoir un coût complètement dingue. Là où on a besoin, au contraire, d'un maillage interbanlieue, interquartier, de désaturer les lignes de métro qui le sont totalement, comme la ligne 13 ou le RER.
Donc pour vous, c'est une politique de grands travaux inutiles.
Exactement.
Votre
on est en total décalage. Et surtout, moi je le dis, il devrait y avoir un référendum. Il y a bien eu un référendum à Berlin. Il y a bien eu des référendums dans d'autres villes.
Et d'ailleurs, référendum parisien,
vous savez
vous
pourquoi
dire.
Parisien ou national, parce que de fait, on sait bien que l'implication va au-delà de Paris, ou bien au moins la région parisienne, Francilien, la région Île-de-France. Mais ça devrait être même au niveau national. Tous les pays, les villes qui ont fait des référendums, eh bien le peuple, au final, a dit non.
Fabrice Rigobert.
Alors juste par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans les différents Jeux Olympiques que j'ai pu couvrir, ce que je trouve de plutôt rassurant dans le projet de Paris 2024, c'est qu'on n'est pas du tout dans la gabegie à laquelle on a assisté à Athènes, par exemple. À Athènes, on a construit des équipements qui étaient trop grand, bien entendu. Aujourd'hui, ces équipements tombent en ruine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec Paris 2024. Le vélodrome, il est déjà construit. Il devait l'être pour Paris 2012. Ça a été Londres 2012. Le vélodrome, il est là. Bref, il y a plein d'infrastructures qui sont utilisées. Les monuments sont aussi utilisés. Donc, je trouve ça plutôt rassurant. Est-ce qu'un journaliste doit être convaincu par les porteurs de la candidature de Paris 2024? J'ai envie de vous dire non. Mais je me suis posé moi-même même une question il y a trois jours en assistant à ce qu'il s'est passé du côté du pont Alexandre III. Je voyais des milliers de personnes venir applaudir des champions. Cette barge, cette piste d'athlétisme lancée sur la Seine. J'ai trouvé cela très beau. En même temps, je recevais des mails effectivement d'opposants. Je me suis dit, est-ce que je fais mon métier correctement ? J'ai commencé à poser des questions, par exemple, à Emmanuelle Hassmann, qui est la présidente du comité paralympique. Les Jeux Olympiques, m'a-t-elle dit, ce ne sont pas que les Jeux Olympiques, ce sont aussi les Jeux Paralympiques. Si on organise les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, on va permettre d'avancer sur toutes les structures qui permettent la mobilité. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de prendre le métro partout à Paris avec un fauteuil roulant ? Non, c'est impossible. Elle me dit, si les Jeux Olympiques viennent à Paris en 2024, on va accélérer et on va construire ces équipements-là. Ça fait partie des arguments que l'on doit absolument entendre. Et effectivement, quand on voit la joie de toutes ces personnes qui étaient sur le pont Alexandre III, et qu'il y avait assez peu d'opposants. Même chose quand la commission d'évaluation est venue il y a quelques semaines à Paris, on s'est intéressé, Radio France a envoyé un reporter voir les opposants au hall. Il y avait une trentaine de personnes. Donc ce n'est pas faute de chercher les opposants, on n'arrive pas forcément à les trouver.
Mais là, il y a aussi une question, je dirais, d'information et de sollicitation des citoyens. Je valide évidemment et je vais dans votre sens, Fabrice Rigobert, mais je vois au standard de France Inter, il y a un certain nombre de questions ouvertes et une envie aussi de savoir et de comprendre ce que sont les modèles économiques, ce que sont les Jeux Olympiques comme outil d'urbanisme, de correction d'un certain nombre de problèmes d'infrastructures, de transport. Enfin, on va y venir. Vous vouliez dire un mot, monsieur le directeur général adjoint.
Juste revenir un petit mot sur les équipements et sur l'opposition. Sur les équipements, c'est vrai qu'on a la chance d'arriver à un moment de notre histoire où on a pratiquement tous les équipements sportifs. Et c'est effectivement ce qui nous distingue avec d'autres pays qui ont dû partir d'une page blanche et qui parfois en plus sont partis dans des équipements qui ne correspondaient pas à leurs besoins. Bercy vient d'être rénové. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a été construit. La base nautique de Vers-sur-Marne sort de terre actuellement. On a à peu près tous les équipements sportifs dont nous avons besoin pour livrer les Jeux. Le seul équipement qu'on n'a pas encore, c'est la piscine, on en parlait tout à l'heure, elle correspond à un besoin des gens. Donc on a besoin de rassurer, d'expliquer, et merci pour votre émission parce que c'est l'occasion pour nous de le faire, qu'on n'est pas du tout dans la situation des autres pays où d'autres pays ont construit un aéroport, une autoroute, des voies de chemin de fer, des logements, toutes les infrastructures sportives. On n'est pas dans cette situation-là.
On part pas du même
on
point,
doit construire une piscine. Sur l'opposition, peut-être juste un petit mot. Dès le départ, on avait conscience des craintes des gens sur les questions de budget, sur les questions d'environnement. Donc plutôt que de construire un projet dans notre coin et ensuite d'aller leur soumettre en disant est-ce que vous êtes pour ou contre ce projet-là, on a fait la démarche inverse et on a mis les gens autour de la table. Des ONG, des acteurs politiques, de la société civile, les jeunes, les fédérations sportives, le monde économique, tous ces gens-là ont participé et énormément ont contribué. Je pense qu'on peut dire qu'on est la première candidature vraiment collaborative. Quand vous voyez des ONG, il y a beaucoup d'ONG qui ne sont pas naturellement pour les Jeux. Si elles se sont engagées avec nous, si les syndicats sont engagés avec nous, c'est parce qu'on a fait ce travail-là de fond, de les mettre autour de la table et de dire « Attendez, les Jeux sont ce qu'on décidera d'en faire. Construisons avec vous un projet responsable. »
Victor, bonsoir, vous nous appelez de Vichy, bienvenue.
Bonsoir, monsieur Demorand, je vous remercie beaucoup de considérer ma question. Voilà, je vous téléphone parce que je suis professeur d'éducation physique à la retraite et je considère que les Jeux Olympiques, pour moi, c'est un enjeu culturel, une nécessité culturelle et historique. L'idée est venue de Coubertin en 1892. On a eu les Jeux à Paris en 1924. On a eu les Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix, à Grenoble et à Albertville. Pour moi, il faut véritablement qu'on ait ces Jeux parce qu'on nous les a volés en 2012 à Londres. Il faut qu'on les ait cette année. Et pour moi, il faut que ce soit accompagné par une très forte politique de mise en place d'une éducation physique à l'école primaire, du CP au CM2, parce que ça n'existe pas, le boulot n'est pas fait par les instituteurs depuis 75 ans, et il faudrait recruter 45 000 profs de gym pour les écoles primaires. Ça veut dire que le coût des Jeux, plus cet accompagnement d'encadrement à l'école primaire, pour en faire du sport un outil culturel.
Oui,
voilà, je ne suis pas dans la comptabilité, moi.
Bien sûr, on a bien compris.
Si ça coûtait 10 milliards, c'est 0,1% du PIB.
Merci Victor pour cette question. La parole à Jacques de Brest et ensuite ici en studio. Jacques, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Oui, merci. Merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Bonjour monsieur. on est deux.
Ah, pardon Jacques. Avec qui êtes-vous? Présentez-vous, madame. Je peux vous donner.
C'est mon épouse.
Ah, oui, bah écoutez, elle a un prénom, votre épouse.
Elisabeth.
Elisabeth, bonsoir. Et vous pouvez parler tous les deux, hein, si vous voulez. Ah, oui. Mais on commence avec Jacques.
Oui. Je vous en prie, merci. Oui, alors je suis sportif depuis longtemps. Je suis assez âgé. Enfin, assez âgé. Ça fait 50 ans que je fais du sport. J'ai des responsabilités au niveau de club et au niveau de comités départementaux. Mmh. Et je m'aperçois que, parce que en plus au comité départemental, je m'occupe beaucoup des dossiers, des fameux dossiers CNDS que remplissent les clubs pour avoir des subventions. Et ça fait des années que je vois ces fonds qui fondent. La première occasion, ça a été l'organisation de l'Euro de football. Après, ça a été pour faire la campagne justement pour les Jeux Olympiques. Après, ça va être sans doute pour financer ces Jeux Olympiques. On a le paradoxe suivant, c'est que en tant que sportif, on a envie de voir ça parce que on aime bien voir le sport et on est compétiteur. Mmh. Et on se dit que les Jeux Olympiques en France vont peut-être générer du bénéfice, comme l'a dit un de vos intervenants, mais est-ce que les clubs seront encore là pour toucher les retombées? Parce que les clubs, ils tirent la langue actuellement.
Merci Jacques pour cette question. Bonsoir Elisabeth, votre épouse, et la parole circule ici en studio. Alors on a deux questions différentes, mais sur l'impact, on va dire, des Jeux Olympiques, à la fois sur la pratique du sport à l'école primaire et à l'échelle départementale. Danielle Simonet pour commencer.
Oui, à chaque fois l'argument qui nous est donné, c'est de dire finalement l'organisation des Jeux Olympiques va être le moteur à l'investissement et à la valorisation du sport. Moi à chaque fois j'ai envie de dire, mais pourquoi attendre l'organisation des Jeux Olympiques pour faire enfin une véritable politique en faveur du sport en France? C'est quand même hallucinant. Pareil sur la question du handicap et de l'accessibilité. Vous vous rendez compte que le gouvernement précédent n'a eu de cesse que de casser, de remettre en cause les exigences des normes accessibilité dans les établissements recevant du public, un véritable scandale. Et là, on veut nous faire croire que parce qu'on accueille les JO, là, tout d'un coup, le problème qui faisait qu'hier, il fallait faciliter les promoteurs pour qu'ils dérogent à l'ensemble des réglementations, là, tout d'un coup, on va créer l'accessibilité, c'est du pipeau. Aujourd'hui, on a quoi? On a pas de place en fac à l'université, en filière STAPS. Il va y avoir un tirage au sort et donc plein de jeunes générations ne vont pas pouvoir poursuivre cet enseignement, cette formation-là, alors que justement, on a un besoin énorme de professeurs de sport.
Donc vous n'achetez pas, si j'ose dire,
d'éducation par le sport, de santé par le sport.
Vous ne pensez pas que les Jeux Olympiques peuvent avoir,
mais je vais vous donner un exemple très concret,
peuvent avoir un effet d'entraînement sur la pratique du sport.
Un exemple très concret, ça fait des années que je me bats sur, par exemple, le parc des sports de la Courneuve, qui est un parc interdépartemental qui part qui est vraiment dans un état catastrophique. La ville de Paris, qui est un des partenaires, grappille 3 francs 6 sous pour ne pas avoir à le moderniser. Je veux dire, on est comme ça sur tout un tas d'équipements, et tout d'un coup, par contre, on va réorienter dans le grand investissement. C'est du pipeau. Moi, les clubs, je les connais. On leur crame des créneaux aujourd'hui, alors qu'il manque d'équipements sportifs sur la région Île-de-France, toutes disciplines confondues. Et hélas, avec ces investissements...
Ça va être une magnifique vitrine, mais il n'y aura rien derrière pour les autres.
Une magnifique vitrine pour du temps de pub pour les grands annonceurs publicitaires.
Mickaël Aloisio, j'y arrive.
Non, je ne dirais pas que ce que dit Madame Simonet, c'est du pipeau, mais je vais rentrer dans le détail de manière très concrète. La chance qu'on a avec les Jeux Olympiques, c'est d'avoir un événement qui génère énormément de ressources pour s'autofinancer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'argent public qui finance l'événement. Du coup, je ne vais pas revenir sur l'histoire de pourquoi la France n'a pas investi plus là-bas ou là-bas. On ne va pas refaire l'histoire et ce n'est pas à moi de porter de regard là-dessus.
Elle va mettre quand même un
paquet.
Par contre,
ce que je peux voir, elle ne met pas un paquet du tout sur l'organisation des Jeux. La ville, elle met de l'argent sur des investissements au service de la population. Ce n'est pas du tout le coût de l'organisation des Jeux. Et on peut rentrer ligne par ligne sur ce que met la ville. Et un exemple très concret, la personne qui était en ligne s'est interrogée sur l'impact que ça allait avoir sur le sport en France. Un exemple très concret, les acteurs publics ont déjà identifié, comme ils ne mettent pas d'argent sur l'organisation des Jeux, une enveloppe de 100 millions pour rénover des équipements sportifs de proximité. Donc ça, c'est très concret, c'est déjà identifié, ces lignes sont identifiées, les collectivités travaillent actuellement pour identifier quels équipements sportifs on va rénover. C'est extrêmement concret, ça va servir le développement du sport.
Qui sera comptable de ces engagements? Qui veillera à ce qu'ils soient tenus? Parce qu'on a très souvent l'impression d'une évaporation entre le projet qui est magnifique et volontariste sur le papier et derrière une espèce d'évaporation de ces promesses-là.
C'est très simple, on a deux structures différentes, un comité d'organisation des Jeux, qui va gérer tous les coûts directement liés au jeu, qui va se financer par de l'argent privé. Ce comité d'organisation des Jeux, à la fin, va générer un bénéfice et il va le redistribuer au mouvement sportif français. Donc, par rapport à l'inquiétude qu'avait notre auditeur, 80% des bénéfices iront, le CIO nous impose sur ces 80%, 20% au comité olympique et 60% à des projets de développement du sport en France. Ce qui n'est pas défini aujourd'hui, c'est quelle structure fera la répartition ou les appels à projets pour aider les porteurs de projets. Et ensuite, on a une société de livraison des équipements olympiques qui réunit l'ensemble des acteurs publics qui se sont déjà mis d'accord sur la nature des investissements. Et là, encore une fois, ils sont mis d'accord pas sur des investissements liés au jeu, mais sur on va enfouir les lignes à haute tension à côté du village, on va créer une passerelle, on va mettre en place de nouveaux équipements au service des gens qui seront utilisés pendant les Jeux parce qu'on les aura, mais qui sont avant tout pour la population.
Retour au standard. Francine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Boulogne-Billancourt, voilà oui. D'où vous nous appelez.
Alors, moi, je m'interroge quand même sur un paradoxe, c'est quand même la santé par le sport dans une ville qui asphyxie assez souvent. On a eu des pics de pollution récemment. On voit autour de Roland-Garros que c'est genre des petits olympiques, des petits Jeux olympiques tous les ans avec une circulation automobile décuplée, un grand parking dans le bois de Boulogne. Alors, est-ce que on peut supposer ou espérer que la mairie de Paris prenne cette occasion pour développer les transports publics et fortement inciter les visiteurs à n'utiliser que les transports publics et donc faire un très très gros effort là-dessus parce que c'est quand même tout à fait paradoxal.
Bien reçu, Francine. Merci pour votre question. Qui veut répondre, Monsieur le Directeur Général
adjoint. Cette question de la mobilité a été
Madame la conseillère
au cœur du sujet.
Paris.
On a développé en fait une collaboration avec WWF sur l'excellence environnementale. On a passé en revue l'ensemble des thèmes liés à ce type de projet, la mobilité, les déchets, l'énergie. Et sur la mobilité, on travaille sur un plan de mobilité pendant les Jeux avec 100% de transport en commun propre.
Oui, Daniel Simonet.
Oui, vous inquiétez pas. Dans le dossier, il y a un greenwashing qui est, au niveau de la com, très bien fait. Mais dans la vérité, on sait pertinemment
que l'organisation... On a repas en verre, d'après vous.
Ah, mais complètement. Et on vous met du développement durable et
de la responsabilité Madame Simonet, il faut lire le dossier. Il faut lire le dossier. Il y a plein d'exemples
en vérité,
très concrets.
On sait pertinemment que l'organisation de Jeux Olympiques, mais à Paris comme ailleurs, génère forcément une empreinte carbone énorme, ne serait-ce que par, les déplacements, en avion que ça suscite, voilà. Et après, oui, il y a un véritable problème, c'est-à-dire que la question des transports en commun fait que on va avoir prioritairement des équipements en termes de transports en commun qui vont privilégier notamment le Charles de Gaulle Express, les liaisons entre l'aéroport et les grands villages olympiques, au détriment des dessertes fines, et que c'est un véritable problème. Et je voudrais juste rajouter un petit argument. Vous savez, c'est normal qu'on ait une envie de fierté nationale d'accueillir ces Jeux.
Oui, j'allais vous poser la question.
De la joie. Une belle fête du sport.
Mais voilà, Daniel Simonet, vous
respecte,
êtes sensible à la joie ou pas?
Mais oui,
et à la fierté
mais moi je suis quelqu'un
d'accueillir.
De joyeux
mais oui,
et
bah
profondément,
voilà.
Et profondément républicaine. Mais je vais vous dire une chose. Réfléchissez deux secondes. Quand le Brésil a accueilli la Coupe du Monde de foot, mais alors tout le peuple brésilien était heureux et fier d'accueillir cet immense événement sportif. Mais si, c'était magnifique. Mais je peux vous assurer qu'il y avait
déjà
une
un peu
fête.
Dans la crise économique.
Sauf qu'après,
au Brésil.
Après, quand justement la Coupe du Monde a eu lieu, et qu'ils se sont rendus compte que c'est eux qui payaient la facture. Alors évidemment, vous allez me dire que les situations ne sont pas les mêmes. Oh, attention, attention, il y a juste quelques années d'écart. Mais ils ont ensuite organisé des grèves très fortes et très dures parce qu'ils ne voulaient pas avoir à payer, parce qu'ils ont eu à payer. Et je peux vous dire que nous aurons également à payer. Moi, je dénonce les politiques d'austérité qui sont imposées à l'ensemble des collectivités par le biais des baisses des dotations de l'État qui les asphyxient au détriment des équipements
Fabrice
sportifs.
Fabrice Rigobert.
Je trouve ça un peu dur de comparer le projet parisien avec ce qui a pu se passer au Brésil. On n'est pas vrai, enfin, on n'est pas du tout...
Vous savez que Paris, maintenant, quasiment dans un autofinancement avec les baisses des dotations de l'État.
Je comparerais plutôt à Londres et quand on voit ce qui s'est passé à Londres, la réhabilitation totale du quartier de Stratford, ce qui a été fait là-bas est exemplaire. Et c'est vrai qu'à mon sens, Paris est plutôt sur le schéma de jeu londonien que de jeu brésilien. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de dérive financière. Je ne vais pas m'engager là-dessus. C'est pas mon métier.
Mais
et je ne suis pas là pour.
Cette réhabilitation de quartier londonien aurait très bien pu se faire sans les Jeux.
Oui,
les
mais,
oui mais c'est un accélérateur.
Les Jeux, Daniel,
c'est un accélérateur. C'est juste un accélérateur. C'est tout ce que je veux dire.
Alors,
par là.
Je voudrais vous donner la contribution par courrier électronique d'Alain. je suis grenoblois, j'ai assisté au formidable coup de fouet donné à la ville lors des JO de 68, 1968, tant sur le plan des équipements qui ont désenclavé Grenoble, que sur l'enthousiasme généré pour la population, sans parler des habitations du village olympique qui ont permis à beaucoup de gens d'être logés correctement, et cela malgré les réticences financières déjà à cette époque. Je suis parisien maintenant et je souhaite que Paris en profite également cordialement, Alain. Monsieur le directeur général adjoint.
C'est plus facile de rebondir là-dessus.
Non mais Daniel Simonet juste, a un point ouais. tout de même, et un point important, comment on dit, privatisation des bénéfices, socialisation des pertes, c'est-à-dire...
C'est complètement ça.
Il va y avoir un certain nombre de sponsors qui vont rentrer dans leur argent s'il y a des pertes.
Je vous coupe tout de suite, le modèle des Jeux n'est pas celui-là, parce que les ressources sont privées. Donc les Jeux ne se financent pas avec de l'argent public.
Quel est l'intérêt de l'argent privé?
Eh ben, je
vous
dire,
il doit bien y en avoir.
Mais bien sûr qu'il y en a un. L'intérêt de l'argent privé, c'est de l'image, c'est de la promotion, c'est du rayonnement. Donc ce sont des gens qui investissent.
C'est de la communication.
De la pub.
Sauf que on peut pas vouloir d'un côté des Jeux qui ne sont pas financés par de l'argent public et de l'autre côté dire on refuse des Jeux financés par de l'argent privé. Surtout quand on laisse les bénéfices au pays pour qu'il les réinjecte dans le développement du sport. Donc il y a un peu une contradiction très forte là-dedans. Moi, ce que je voulais dire là-dessus, rebondir sur le témoignage de cette personne, c'est exactement ce qui nous a guidés dans nos réflexions sur le village olympique. Le village olympique, au moment où il a fallu choisir le lieu du village, on a fait un choix avec tous les acteurs publics de dire où est-ce qu'on en a le plus besoin. Et différents sites ont été étudiés. Un choix a été retenu en Seine-Saint-Denis parce qu'on considère qu'il y a un besoin de logement et on travaille avec tous les acteurs publics pour construire un village qui corresponde aux besoins de la population.
Ce
village,
département où il y a plus de logements sociaux. Hein.
Ah oui, enfin, je vous dis, actuellement, les collectivités sont en train de faire ce travail-là de configuration. Donc, ça sera 2200 logements familiaux, 900 logements résidences étudiantes, 100 000 m2 de bureaux d'activité, parce que les collectivités considèrent que c'est un besoin de la population. Donc, ce travail-là, il est fait de manière cohérente. Je veux bien qu'à chaque fois, on revienne sur Rio, sur Montréal, sur Athènes. Ça serait intéressant de regarder la réalité du travail qui est fait. Et donc, je vous invite, Madame Simonet aussi, on peut prendre tout le temps qu'il faut, à prendre ligne par ligne pour sortir un peu des idées reçues sur les Jeux, parce qu'on a conscience de ces craintes et qu'on a envie de les traiter.
Mais puisque vous êtes si fier de vos arguments, pourquoi ne pas organiser un vrai débat public et un référendum, et que ce ne soit pas un débat entre Madame Simonet et vous-même. Vous êtes, fort courtois,
emblématique.
Je serais ravie de vous revoir.
Position.
Ce sera très agréable, mais honnêtement,
on va même
pourquoi
vous recevoir au sein du comité de candidature pour prendre
priver,
tout le temps de vous
pourquoi
présenter
priver
le
peuple français
Il faut un référendum,
de ce
d'après
débat
vous.
Pourquoi le priver d'un débat contradictoire avec l'ensemble des informations transmises, mais aussi transmises de manière contradictoire, en donnant les moyens à des contre-expertises? Pourquoi?
Mais oui,
alors,
pourquoi? Monsieur le directeur général adjoint du comité Paris 2024, pourquoi ce déni de démocratie?
Mais je pense pas qu'on soit dans le déni de démocratie. Pour plusieurs. Alors, laissez-moi vous répondre et je vais vous donner quelques éléments très concrets. Déjà parce que je pense que les élus sont élus démocratiquement et qu'il y a eu des débats dans l'ensemble des assemblées, au sein de la région, au sein de la ville. Que vous ne soyez pas d'accord avec les débats et qu'une majorité l'emportait, c'est aussi ça la démocratie. Quand les élus de la métropole soutiennent à l'unanimité, quand les élus de l'Île-Saint-Denis s'engagent, quand les élus de la région s'engagent, donc tout ce débat démocratique a eu lieu dans les assemblées. Vous n'étiez pas d'accord, mais il a eu lieu et une majorité l'emportait très largement. Et ensuite, on allait beaucoup plus loin que ça. C'est que plutôt que de poser la question aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre les Jeux, on a fait autre chose, on a lancé tout un dispositif de concertation où on a incité la population, les ONG, les associations à venir construire le projet avec nous. Et pendant plus d'un an, on a organisé des réunions publiques, une plateforme en ligne, les gens ont pu faire des contributions pour nous aider à construire un projet qui réponde à leurs aspirations. Et on considère que c'est encore plus fort parce qu'on leur a donné la parole pour construire avec nous le projet qui leur correspond. Et c'est sans doute pour ça qu'on a aujourd'hui un tel enthousiasme derrière le projet.
Daniel Simonet, un dernier mot, il reste 15 secondes.
Oui, non, il n'y a pas de véritable enthousiasme derrière ces Jeux, mais quand on leur propose des manifestations sportives, bien sûr, les gens sont ravis, ils y vont, et ils ont bien raison. Mais non, franchement, je trouve ça vraiment déplorable qu'il n'y ait pas l'organisation.
Je pense que les Jeux ont une connaissance plus fine que
des Jeux
que ça. Je
trouve ça bien déplorable qu'il n'y ait pas de grand débat là-dessus.
Bon, on a essayé de l'organiser, on va continuer à l'avoir.
Je vous remercie sur France Inter de l'avoir.
Non, mais parce qu'il y a énormément de questions très différentes et il y a sans doute un appétit de réflexion et de débat sur ce sujet. Merci à tous les trois pour cette première esquisse de débat public sur les Jeux Olympiques. Le journal à suivre.